Enfance buissonnière, réflexion autour de la liberté d'instruire. Un cycle d'émissions à écouter sur Radio Diwa, 107.5 FM ou sur internet rdwa.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des pédagogies utilisées dans l'instruction en famille. Pour en discuter, je suis avec deux parents qui ont fait le choix de l'instruction en famille, Sophie et Anne-Laure. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je vous laisse vous présenter rapidement.
Donc moi c'est Sophie et du coup je suis mère de trois enfants dont deux qui sont instruits en famille, Maëlle qui a 9 ans et Ellie qui a 6 ans et demi.
Et moi c'est Anne-Laure, je suis mère de deux garçons qui n'ont jamais été scolarisés, de 14 et 9 ans.
Et qu'est-ce que vous avez choisi comme pédagogie pour instruire vos enfants ?
Alors moi de mon côté, du coup... l'instruction en famille, c'est venu un petit peu... J'ai côtoyé des amis avec lesquels on avait monté une association de soutien à la parentalité. Et dans ces familles-là, où voilà, on pratiquait beaucoup ce qu'on appelait le maternage proximal, c'est-à-dire l'allaitement long, etc. Et ben, effectivement, dans ce milieu où on était très attentif aux besoins du bébé, il y avait des familles qui avaient choisi de faire l'instruction en famille. Et du coup, moi, c'est par ces familles-là, en fait, que j'ai découvert directement le unschooling, donc, qui est un terme qu'on peut traduire en français par apprentissage autonome, où du coup, le principe, c'est que l'enfant est naturellement curieux, enthousiaste, qu'il a des intérêts qui lui sont propres, et que cette curiosité, ces intérêts, s'il est dans un environnement propice où on peut l'accompagner, où lui-même peut aller chercher de l'information un peu plus loin, etc., et ben, qu'il va apprendre de cette façon tout ce qui l'intéresse et qui est autour de lui. Voilà, et du coup, effectivement, ça m'a tout de suite vraiment passionnée, cette façon d'apprendre. D'autant plus que effectivement, j'avais dans mes anciennes amies, j'avais des amies qui étaient instites, qui avaient fait l'instruction en famille pour leurs enfants, mais de façon formelle, avec des pédagogies Montessori, qui allaient se former à Montessori, qui ensuite faisaient les cours Montessori à leurs enfants. Et ça, je ne m'en sentais pas du tout capable. Par contre, les apprentissages informels, se dire qu'en fait, la connaissance, elle est juste là et on va aller vers la connaissance ensemble. Et aussi, moi-même, je me mettais dans une posture d'apprenante, souvent, parce qu'il y a plein de sujets que je ne connais pas. Ça m'a semblé très vivant, très dans le partage aussi, une vie familiale libre et heureuse et enthousiaste.
Et tu as découvert tout ça avec la naissance de ton premier enfant. Avant, tu étais à l'école dans le système classique. Tout était nouveau avec l'arrivée de ton premier enfant. Donc.
Oui, donc moi, j'étais un pur produit du système scolaire. Parce que j'ai été à l'école jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai même fait 9 années d'études de médecine. Les études, Non, ce n'est pas les études les pires qui soient parce que... On a quand même très rapidement la moitié du temps à l'hôpital, donc dans le concret. Mais au niveau des apprentissages du par cœur, ça par contre, c'était comme ce que je savais faire à l'école, c'est-à-dire apprendre, recracher et oublier. Donc ne pensez pas que vos médecins savent tout par cœur. Ils ont tout oublié, mais... Non, ils savent quand même, on s'approprie quand même une façon de travailler et d'aller chercher l'information, heureusement. Parce que, c'est le concret, quoi. C'est quand on est dans le concret en train de soigner les patients. Mais effectivement, j'étais un pur produit système scolaire en ayant bien réussi scolairement. Et. Quand mon enfant, quand j'ai rencontré ses amis avec qui on a fait monter cette association, mon aîné, il avait 1 an et demi. La première chose qu'on a fait avec cette association, c'est d'inviter André Stern en conférence. Voilà. Et André Stern, Bon, on en parlera plus tard parce que je vais quand même laisser Anne-Laure se présenter. Mais André Stern, c'est voilà, une des personnes qui témoigne beaucoup de son propre parcours, puisqu'il n'est jamais allé à l'école et qu'il a maintenant, il doit avoir plus de 45 ans. Voilà.
Anne-Laure, quelle pédagogie tu as choisi, toi ?
Ça ne s'est pas passé de cette façon. En fait, quand on a fait le choix, du coup, de ne pas mettre notre garçon à l'école à 2 ans et demi, du coup, on l'a fait quand on a su que c'était possible, parce qu'on ne savait pas que qu'on avait la possibilité de ne pas le mettre à l'école, et du coup, on avait envie de continuer à être ensemble. Du coup, à 2 ans et demi, on a juste continué comme on avait commencé depuis sa naissance, à vivre ensemble, en fait. À vivre ensemble, à promener, à voyager, à observer, à lire des livres, aller à la bibliothèque, à faire des expos, aller au parc. Et du coup, on est parti dans l'idée que quand même, quand ça serait un peu plus sérieux, il irait sûrement à l'école. En fait, un peu plus sérieux parce que du coup, j'étais encore dans une idée du coup que c'était seulement à l'école qu'on pouvait apprendre des choses. Et j'étais aussi du coup dans l'idée que moi, j'avais pas du tout envie d'être la maîtresse de mes enfants. J'ai jamais voulu être instite et j'avais pas du tout envie d'être dans une relation du coup de contraintes et du coup d'imposition dans un cadre de travail, en fait. Enfin, j'avais pas envie de vivre ça avec eux. Du coup, pour moi, ça pouvait être l'école qui pouvait s'en charger, mais en tout cas pas moi. Et ces années d'expérimentation du coup auprès de mon grand m'a juste conforté progressivement qu'il apprenait plein de choses, mais qu'il apprenait vraiment des choses normalement qu'on apprend à l'école. Je lui proposais pas de cadre formel. Et c'était juste incroyable de voir la vie qui confirmait ce que je pouvais observer aussi auprès des enfants plus grands instruits en famille que je côtoyais, qui confirmait ce que je commençais à découvrir aussi dans les livres. Je sors juste un exemple, mais donc à 4 ans et demi, on rentre de la bibliothèque et il me dit j'ai pris 4 Yakari, j'ai pris 4 Tintin, j'ai pris 4 machins choses et 4 trucs, et 4 fois 4, ça fait ça. Et je l'ai regardé. En fait, moi, je suis allée jusqu'au bac et après, j'ai fait d'autres études. Mais les maths, ça n'a jamais été mon truc. Je l'ai regardé en me disant, mais j'avais même un doute moi-même sur sa façon de penser. Et c'était juste évident pour lui. Il avait pigé la multiplication, il avait 4 ans et demi. J'avais fait un nuancier à la maison pour notre meuble à chaussures avec plein de taches de couleurs de peinture. Et du coup, il s'amusait à compter les taches de peinture. Et chaque fois, il se mélangeait les pinceaux, il recommençait. Chaque fois, il se mélangeait les pinceaux, il recommençait. Et du coup, il a pris la ligne horizontale et la ligne verticale. Et il a fait « Ah, ça y est, je sais. Ça fois ça, ça fait ça. » Et j'étais stupéfaite parce que franchement, même moi, j'avais un doute tellement mon niveau de mathématiques est pas à l'intérieur de moi-même. Il est juste théorique, il faut que je me prenne la tête pour dire « Ah oui, ah c'est OK. » Et ça, c'était incroyable que sur des choses en plus du coup qui ne sont pas de mon domaine du tout, qui sont pour moi du domaine abstrait, qui sont du domaine du coup intellectuel, entre guillemets, il puisse y accéder par lui-même en fait, qu'il a. L'intelligence. Du coup, voilà, ça a été juste des surprises en surprises qui ont fait en fait que ça nous a donné confiance, je pense. C'était juste trop bon de le voir grandir à son rythme, d'apprendre plein de choses à son rythme, à des endroits toujours très étonnants et souvent à des endroits qui étaient en dehors de notre milieu familial, en fait, pas des choses qu'on cultivait à la maison. Et du coup, c'était très troublant et en même temps très rassurant de se dire « Ok, en fait, il ne va pas seulement retenir le savoir familial qui peut être chouette, mais qui est quand même malgré tout limité ou qui a un cadre particulier, en fait. Mais il peut très bien aller sur plein d'autres savoirs qui ne concernent pas du tout sa famille Et nous, on a juste à confirmer, on a juste à le suivre, on a juste à lui apporter de la nourriture, on a juste... Et du coup, on ne l'a jamais scolarisé. Et on a continué comme ça, en fait.
Parce que sur l'apprentissage des mathématiques, tu n'as rien fait ?
J'ai rien fait. En fait, je pense qu'il a déjà un bien meilleur niveau que moi en maths. Ça, c'est sûr et certain, j'en ai aucun doute. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai montré comment on pose. Ouais. Après, il est hyper, hyper bon en calcul mental, c'est un truc de dingue. Mais je lui ai montré comment on pose. Ouais. Pour qu'il puisse aller plus vite. Enfin, du coup, j'ai pu apporter des outils comme ça, et du coup, pas du tout que moi. En fait, son environnement a pu nourrir son appétence aux mathématiques, par exemple aussi avec de la charpente ou des choses comme ça, enfin, avec des notions parallèles, perpendiculaires, enfin, des notions très concrètes par sa vie concrète, en fait. Si son environnement nourrit ses besoins mathématiques, je dirais, mais du coup, c'est et ses observations, et l'expérimentation, et la vie qui vient nourrir ça.
Apprendre la charpente, par exemple, tu disais, c'est apprendre à faire des charpentes.
Ouais, il a eu l'occasion du coup de travailler avec un ami. Enfin, en fait, mais même en faisant des recettes de cuisine, on peut utiliser les proportionnalités, on peut utiliser les fractions. Enfin, en vrai, même dans des domaines qu'on pourrait dire plutôt scientifiques, tout l'environnement de vie, tous nos environnements. Sont des moments d'apprentissage. On s'en rend compte souvent plus tard. L'idée, c'est pas de se dire tiens, c'est chouette qu'il fasse ça parce qu'il va apprendre tel théorème ou tel truc. En fait, c'est juste qu'on peut pas s'empêcher d'apprendre et que du coup, il apprend plein de choses.
La vie est bien faite, on apprend tout seul, on l'a oublié.
C'est ouais.
Et ben, moi, ça me fait envie de parler de Thierry Pardoe, donc que j'ai réécouté un peu en préparant cette émission. Et parce que c'est exactement ça qu'il dit, c'est que, en fait, dans les apprentissages informels, enfin, ou même dans l'apprentissage qui se fait depuis la nuit des temps, en fait, le fait d'être dans le monde, en fait, on va utiliser, on va apprendre tout ce qui est autour de nous. En fait, quand notre environnement, lui, il parle d'authenticité, c'est-à-dire que si... si on est dans un environnement authentique hein, où effectivement il faut que tu construises une maison donc la charpente tu peux pas la construire n'importe comment parce que si tu la construis n'importe comment ça tombe ta maison du coup si tu tu vas apprendre les choses pour que ta maison elle tombe pas ou les maths hein, moi j'avais suivi une journée là avec un monsieur qui a créé une association qui s'appelle les maths par les mains et qui intervient dans les milieux scolaires et là qui est intervenu dans un milieu d'instruction famille pour expliquer en fait que les maths c'est pratique en fait on en a fait quelque chose de très abstrait parce que en fait on a pour que ça aille plus vite en fait effectivement parce qu'une équation ça permet en fait de répondre à un besoin réel. Mais du coup, en fait, de toute façon, les apprentissages, s'ils sont ancrés dans le réel, dans quelque chose d'authentique, on va apprendre ce qui est autour de nous. Et justement, Thierry Pardoe, là, il disait que justement, si par exemple, tu te promènes dans la nature et que tu... Hop, il y a un nid d'oiseau qu'on trouve qui est tombé par terre. Et bien là, toutes les personnes qui sont là vont aller voir. Ah, qu'est-ce que c'est comme nid ? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà, ça va être... On est dans le réel. Et ce réel va interroger, va susciter de l'intérêt, etc. Il dit que si c'est dans une classe, et ben ça veut dire qu'on devrait créer artificiellement cet intérêt. C'est-à-dire que là, le mardi à 10h du matin, l'institutrice va amener le nid et va essayer de créer de l'intérêt autour du nid d'oiseau. Et puis là, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y en a qui sont pas intéressés. Est-ce que tout le monde va être intéressé ? Qu'est-ce qu'on va en dire ? Mais voilà, le nid d'oiseau, il est quand même dans une classe fermée entre quatre murs. Et de la même façon, il parlait d'un autre exemple qui m'avait parlé, c'est-à-dire que lui, il habite au Canada Et il dit, bah, par exemple, quelqu'un vient visiter le Québec et bah, quand il arrive à l'aéroport, on l'emmène dans un endroit et puis on lui montre les cartes du Québec, on lui parle de l'histoire du Québec. Voilà, et pendant 15 jours, on lui montre plein de choses, tatata, mais il ne sort pas de la pièce où il est arrivé chez les amis, par exemple. Et bah, s'il repart, il va juste avoir le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Alors que nous, quand on voyage, ou même, voilà, on va aller rencontrer les personnes, on va aller juste boire un thé à une terrasse un soir. Voilà. Et en fait, on va juste... Le fait d'être dans le réel et dans quelque chose d'authentique, on va du coup forcément apprendre. Et effectivement, il dit ça. Il dit, on peut pas... Il n'y a pas une journée où on n'apprend rien, en fait. On apprend en permanence de ce qui nous entoure. Et du coup, ouais, pour continuer par rapport à ce qu'il, lui, il a pu dire, il disait qu'il y avait besoin... d'avoir du temps, de l'espace, et qu'effectivement, on va souvent être amené à observer, à imiter ce qu'on voit, et qu'à partir du moment où on est ouvert sur le monde et que notre environnement il est chargé de sens, du coup, ça amène de l'authenticité et forcément de l'apprentissage. Et lui, il dit, il parle, il fait l'analogie là, avec une graine, il dit que, en fait, un enfant, ou enfin une personne qui vient au monde, ou même un adulte qui a envie d'apprendre, voilà, c'est juste... Le souci des parents, pour leur enfant, c'est juste de préparer le jardin. C'est-à-dire que la graine, si elle tombe dans une bonne terre, pleine d'humus, etc., bien humide, et ben, la graine, elle va pousser et elle va se développer. Si par contre, elle arrive sur du gravier ou sur du béton, et ben, voilà. Du coup, nous, notre souci, c'est juste de préparer l'environnement, le terreau, pour que la graine tombe dans un bon terreau.
Le terreau,
et qu'elle pousse ensuite toute seule. Et bah,
c'est
le terreau,
parents,
ça peut être...
Les parents et l'environnement.
Et bah, c'est ça, c'est l'environnement, parce que donc, effectivement, ce qu'on peut casser comme mythe, parce que, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est qu'on parle souvent d'école à la maison pour parler d'instruction en famille, parce que c'est un terme qui est plus parlant pour les personnes, mais en fait, en réalité... en tout cas, moi, je ne fais pas l'école à la maison. C'est-à-dire que on n'est pas dans une salle de classe à refaire la même chose qu'à l'école. Parce que je pense que là, bon, même si peut-être on apprend, peut-être que les personnes qui choisissent de faire de cette façon respectent aussi parfois peut-être plutôt les rythmes physiologiques, de ne pas se réveiller trop tôt, d'apprendre peut-être sur des temps plus courts dans la journée. Mais en tout cas... Moi, ma façon de faire, c'est d'être dans le monde. Et du coup, on n'est pas entre quatre murs, dans une pièce à la maison à apprendre. On est dans le monde. On va beaucoup dans la nature. On va effectivement dans des musées. On va chez des amis. Et voilà. Et de cette façon, on est dans de l'authentique.
J'aimerais lire un extrait d'un livre de John Holt, « Apprendre sans école ». Voilà. C'est dans le chapitre « L'invention du concept d'apprentissage ». Non seulement je n'ai pas appris tout ce que je sais à l'école, mais je ne l'ai pas non plus appris dans des situations d'apprentissage, c'est-à-dire en faisant des expériences conçues pour apprendre quelque chose. Je n'ai pas fait les choses dans le but d'apprendre quelque chose. J'ai beaucoup appris sur la musique et sur la pratique musicale en assistant à des répétitions et à des concerts. Or, je n'y suis pas allée pour apprendre la musique, mais parce que j'aimais y aller, pour voir et pour écouter. Lors de mes brefs voyages à l'étranger ou dans mon propre pays, j'en ai appris beaucoup sur les endroits visités. Or, je n'y suis jamais allée non plus pour apprendre quelque chose, mais pour rencontrer des gens et faire des choses. Au cours de ces deux dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres citoyens de la ville de Boston pour combattre, ou au moins retarder, un projet de développement urbain catastrophique et scandaleux. À cette occasion, j'ai beaucoup appris sur les lois, la politique et l'économie de ma ville, ainsi que sur les missions respectives de l'État et de la ville. Pourtant, je ne me suis pas lancée dans ce travail dans le but d'apprendre tout cela. Je voulais juste que ma ville ne soit ni spoliée ni ruinée. Je lis beaucoup de magazines et de livres, non pas pour apprendre ce qui est écrit, mais parce que je pense qu'ils vont m'intéresser, m'aider ou m'amuser. Je peux aussi, ici ou là, lire pour comprendre quelque chose. Sans vouloir, je vais retenir ce qui m'intéresse, en fonction de ce qui m'aide dans mon travail et dans la vie, ou pour le plaisir. Ça, pour moi, du coup, c'est vraiment juste une évidence pour moi-même. Même si j'ai fait des études, aujourd'hui, je devrais repasser rien que le brevet des collèges ou mon baccalauréat. je pense que j'en serais incapable. J'ai appris à l'école plein de choses. J'ai eu mes examens et puis j'ai tout oublié. Et même si c'est partie de la culture générale, en fait, c'est quand même pas des choses en général très passionnantes. Et c'est pas parce qu'on passe tous le bac que c'est quelque chose qui nous réunit, sur lequel on se retrouve et on va être trop content de discuter de notre bac qu'on a passé ensemble. En fait, on s'en fiche de tout ça. Quand on rencontre des gens, en général, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer des gens passionnés sur un domaine en particulier qu'on ne connaît pas, et pas sur des généralités et notre culture générale commune. Du coup, ça m'a aussi vachement rassurée et donné confiance de voir que moi-même, j'avais appris plein de choses à l'école, mais qu'en fait, j'avais énormément désappris. Et que par contre, il y a plein de choses que je connais, j'ai jamais appris à l'école. Je suis allée moi-même trouver ma nourriture, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté des conférences, j'ai lu plein de bouquins. Et en fait, il y a beaucoup de mon savoir aujourd'hui dans lequel je suis allée avec une entière autonomie, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup rassurée de regarder ma vie et mes centres d'intérêt et mon apprentissage. De me retourner et de regarder, en fait, qu'est-ce que je sais aujourd'hui et en fait, comment je le sais, par où c'est venu. Et du coup, c'est aussi très rassurant. Et il y a une étude américaine qui confirme tout ça, qui dit que 70% de l'apprentissage se fait par l'activité de l'expérience, 20% par les contacts et les interactions avec les autres et 10% par la formation formelle au sens propre. Du coup, allons-y, quoi. Sortons dans la vie et apprenons sans nous en rendre compte. Après, il y a des pédagogues qui, dans le cadre de l'école, déjà proposent ça. Ils savent très bien, en fait, que des élèves apprennent bien plus de choses en papotant entre eux pour s'expliquer un truc qu'avec une explication d'un livre ou l'explication d'un instituteur. Du coup, les discussions sont extrêmement valorisées. Parce qu'on sait que c'est bien plus facile pour les enfants de se comprendre, de trouver des chemins et de compréhension et d'intérêt pour aller vers un exercice que face à un livre ou à un cours théorique.
Et parfois, vous avez pas eu peur qu'il y ait des bases importantes pour le développement de l'enfant et qu'il lui manque dans ce processus ?
Oui, on doute tout le temps. Enfin, moi, je doute, bien sûr que je doute, c'est sûr. Après, le truc, c'est que je me dis que, en fait, mes enfants, ils sont intelligents. Du coup, là, ils vont pas aujourd'hui, ils seront libres d'y aller plus tard, en fait. S'ils veulent apprendre un truc super spécifique, ils donneront les moyens pour apprendre un truc super spécifique. On a des copains, leurs enfants, après des années, de non-école à la maison, ont voulu passer le bac. Et du coup, on bossait l'année d'avant pour avoir les acquisitions nécessaires pour passer leur bac. Et ils ont eu leur bac. Du coup, je fais vachement confiance en ça, en fait.
Ouais, enfin moi, c'est ça qui me parle énormément. C'est qu'en fait, moi, ce qui est important pour moi dans ce choix d'accompagner mes enfants, c'est que moi, ce qui me plaît en tant qu'être leur parent, c'est que eux, ils deviennent des personnes épanouies et bien dans leur pompe, quoi. Et je pense que ça, enfin, moi, je pense que quelqu'un qui est bien dans ses pompes et qui a confiance en lui, il va où il veut. Et en fait, enfin, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Effectivement, des personnes, des chercheurs, des gens qui ont réfléchi là-dessus, qui ont témoigné. Tout le monde dit ça, mais aussi, par exemple, on a plusieurs fois parlé de l'association Les Enfants d'abord, où effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des familles qui se réunissent pour beaucoup avec ces apprentissages autonomes. Et qu'en fait, effectivement, les enfants, quand un enfant, il veut faire une école d'ingénieur, par exemple, et que pour faire l'école d'ingénieur, il faut avoir le bac pour s'inscrire dans l'école d'ingénieur. Moi j'ai entendu plein de témoignages d'enfants qui vont passer leur bac, ils vont bosser pendant 6 mois et ils savent pourquoi ils le font et ils réussissent et ensuite ils font ce qu'ils veulent en fait. Quand il y a la motivation eh ben, ils obtiennent ce vers quoi ils veulent, ce qu'ils veulent obtenir, quoi.
Là, on parle d'apprendre des choses scolaires et apprendre la confiance en soi. C'est le même processus ?
Ben moi, pour moi, la confiance en soi, c'est justement quand on est... quand on est attentif à identifier quels sont ses besoins. Après, je vais parler de communication non violente parce que c'est un peu ce que pas mal de gens connaissent. Mm-hmm. C'est-à-dire que je trouve que dans notre société, on est beaucoup à taire nos besoins. On entend beaucoup de parents dire à leurs enfants « Mais non, t'as pas mal !» quand ils viennent de tomber. On est coupé, en fait, de qui on est vraiment. Ou moi, par exemple... Moi, tout mon parcours de vie, mes études, je ne les ai pas choisies, en fait. J'ai juste suivi ce qu'on m'a dit. Ah, bah voilà, t'es une bonne élève, donc t'as le choix, tu fais soit des prépas, soit médecine. Bon, bah voilà, j'ai fait médecine. Enfin, tu vois, c'est parce que ça me tentait quand même un peu plus. Mais franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais choisi ma vie. Et du coup, je pense que moi, pour moi, avoir confiance en soi, c'est juste accompagner son enfant dans qui il est, dans ah, bah t'as envie de faire, t'as envie de lire. Bon ben voilà, oui, là maintenant tu peux lire, enfin voilà, enfin sois libre en fait, et que la liberté de laisser les enfants libres, à l'écoute de leurs besoins, de leurs sensations. Ah oui, t'es triste, bah oui, t'es triste, bah voilà, d'être juste en connexion avec soi, ça pour moi c'est la confiance en soi, et aussi la confiance dans la relation aux autres, parce qu'effectivement moi je pense que à l'école, ce qui se passe beaucoup, c'est quand même des interactions qui sont pas choisies entre des enfants qui ont tous les mêmes besoins, qui ont tous le même âge et qui sont avec juste un ou deux adultes. Voilà, et que bah, ça amène quand même de la violence pour répondre aux besoins. Et que si c'est des enfants qui choisissent d'aller vers les autres dans un rapport de confiance, parce que nous, quand on se rencontre entre familles non scolarisantes, eh ben, y a quand même beaucoup d'adultes, et puis il y a les adultes de référence pour les enfants. Et du coup, s'il y a un problème, voilà, c'est l'apprentissage de la vie en société. Voilà, du coup, tout ça, ça amène de la confiance... De la confiance en soi, en ce qui se passe pour nous, parce que là, on est triste, parce que là, on est frustré, etc. De la confiance dans la relation aux autres, parce que, bah oui, là, c'est vrai que on avait envie du même jouet, mais comment on fait ? On essaie de trouver des solutions, voilà. Anne-Laure, tu voulais dire quelque chose ?
Je voulais repartager un autre texte, du coup, de John Holt, qui parle de tout ça, justement. Juste après le droit à la vie. Le plus fondamental des droits de l'homme est celui d'être maître de son esprit et de ses pensées. Cela implique le droit de décider soi-même comment on va explorer le monde qui nous entoure, celui d'évaluer ses propres expériences et celles des autres, et enfin le droit de chercher et de donner du sens à sa vie. Quiconque nous ôte ce droit, tout éducateur soit-il, s'attaque à l'essence même de notre être et nous cause une blessure profonde et durable. Car il nous affirme ainsi que nous ne pouvons pas nous faire confiance à nous-mêmes, même pour penser. Que notre vie durant nous dépendrons des autres pour connaître le sens du monde et celui de la vie, et que nos propres interprétations faites au regard de nos expériences n'ont aucune valeur. Un enfant, du coup, qui apprend par lui-même, je pense qu'effectivement, ça va réellement nourrir sa confiance en lui. Il va pouvoir s'appuyer sur ça, en fait, pour continuer à avancer. Non, je pense qu'au contraire, le fait d'aller soi-même vers ses apprentissages et de s'enrichir de ses apprentissages. Moi, je vois bien mes garçons, ils peuvent être vraiment des références pour moi, mais aussi pour d'autres adultes, parce qu'on sait que vraiment, c'est un expert là-dedans. Et du coup, c'est pas parce que c'est un enfant, en fait, qu'il est moins expert qu'un adulte. Donc, pour plein de sujets, bien sûr que oui, parce qu'en fait, nous, on a l'avantage du temps qui a fait qu'on a pu emmagasiner plus de connaissances d'apprentissage qu'eux. Mais en fait, sur certains sujets, c'est déjà plus le cas, en fait. Et du coup, d'être soi-même, se sentir soi-même, se vivre soi-même possesseur de certaines notions, de se vivre soi-même comme une référence dans certains domaines vis-à-vis de même plein d'adultes, je pense que c'est extrêmement nourrissant et valorisant, en fait, pour les enfants, parce qu'ils possèdent des savoirs que certains adultes n'ont pas, même au sein de leur famille.
Ouais, moi, je voulais revenir à ce que tu disais, parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'avais entendu là, il n'y a pas très longtemps, et qui me parle par rapport au... En fait, par rapport au bébé. Donc moi, j'ai une petite fille d'un an et demi. Mais en fait, effectivement, le fait d'apprendre par soi-même, c'est-à-dire que moi, je vois bien que... donc, c'est quelque chose que j'ai constaté et qui fait écho à quelque chose que j'ai entendu, qu'en fait, que quand les enfants, les petits, les tout-petits, parce que les tout-petits, ils apprennent des tonnes de choses, hein, encore, enfin... mais du coup, par exemple, moi, je vois bien ma fille, hein, quand elle a envie de monter, par exemple, sur une chaise, qu'est-ce qu'elle est heureuse quand elle le fait par elle-même. Que si, par contre, hein, au bout de 2 secondes, je la prends moi-même et je la mets dessus, mais en fait, elle est pas contente, quoi. Elle me dit, mais par maman, en fait, moi, je veux le faire moi-même. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'apprentissage, c'est qu'en fait, si on les laisse, hein, si on leur fait confiance... En fait, c'est ça, c'est que si nous, on fait confiance à leur potentiel, au potentiel de fou qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont être heureux. Enfin, ils vont bien se rendre compte qu'ils y arrivent et que du coup, ben voilà, ils sont maîtres d'eux-mêmes, quoi, et de leur vie. Et je voulais, du coup, aller un petit peu poursuivre parce que c'était un petit peu ce que disait, enfin, c'est ce que disent plein de personnes, mais... Du coup, André Stern, notamment, il dit ça, qu'en fait, que les bébés, en fait, enfin, les bébés, qu'en fait, apprendre une langue, apprendre la langue maternelle, c'est ce qui était le plus difficile dans toute notre vie. Qu'en fait, il n'y a pas d'apprentissage plus difficile que d'apprendre une langue maternelle. Or, encore, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de cours pour apprendre la langue maternelle à son bébé, tu vois. On est encore, enfin voilà, mais c'est un apprentissage hyper dur parce que voilà, enfin c'est pas comme quand nous on apprend une langue étrangère parce qu'on a déjà des concepts de ce que c'est qu'une langue, du verbe, du mot, du machin. Mais un bébé qui apprend une langue maternelle, c'est un truc de fou. On n'a pas d'apprentissage plus dur et ça se fait naturellement, comme la marche en fait. Apprendre à marcher, ben en fait les bébés ils apprennent en observant, en imitant, en se trompant, en tombant, en se relevant, etc. Voilà, et du coup, je voulais continuer un peu sur André Stern parce que c'est un petit peu dans la même chose. Lui, il dit que la première disposition spontanée de l'enfant, la première chose que l'enfant va faire, c'est le jeu. Et qu'en fait, le jeu, c'est aussi... Donc tout ça, ça a été... Lui, il a beaucoup travaillé avec un neuroscientifique allemand, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, ça a été prouvé par les neurosciences que le jeu est le meilleur dispositif d'apprentissage et qu'en fait un enfant, si on ne l'interrompt pas, il jouerait tout le temps, et que par le jeu, eh ben, il apprend des tonnes de choses. Ensuite, lui, il parle aussi beaucoup d'enthousiasme. Il disait, il expliquait l'histoire de du pouce, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis ces dernières années-là, on va dire depuis une dizaine d'années maintenant, en fait, on s'est rendu compte que le cerveau, la zone d'utilisation du pouce dans le cerveau avait énormément... avait grossi. Voilà, qu'en fait, notre cerveau, si on utilise... Et en fait, c'est parce qu'on utilisait beaucoup les SMS. On faisait beaucoup de SMS. Et du coup, parce que les jeunes, les personnes maintenant utilisent beaucoup leur... font beaucoup de SMS, la zone du pouce dans le cerveau avait augmenté. Du coup, on s'est dit, c'est super, on va faire plein de maths comme ça, la zone des maths va augmenter dans le cerveau. Et en fait, non, ça ne marche que si c'est là où on utilise, là où on fait quelque chose avec enthousiasme. Et donc, effectivement, voilà, si c'est juste faire de l'entraînement musculaire là, pour augmenter la zone du cerveau des maths, et ça ne marche pas. Mais si, par exemple, c'est quelque chose d'enthousiasmant, eh ben, on va effectivement développer notre zone cérébrale en rapport avec notre apprentissage. Parce que voilà, il disait aussi que, enfin, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que pour apprendre, il faut que nos centres émotionnels soient activés. Voilà, parce qu'on peut apprendre quelque chose qui ne nous intéresse pas, comme par exemple quand on fait du par cœur, mais ça ne va pas être inscrit dans la durée. Voilà. Voilà, j'ai fini avec André Stern.
Donc en gros, l'instruction en famille, c'est à la portée de tous. Mais le plus dur, c'est pour les parents d'arriver à faire confiance et à lâcher toutes les normes, les contraintes, les peurs de ne pas savoir qu'on nous a... C'est ça, en fait, le plus dur. C'est, si on lâche ça, l'enfant, il apprend tout seul.
Bah, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est qu'en fait, c'est aussi une déscolarisation de nous-mêmes. C'est-à-dire que... Enfin, déscolarisation, c'est juste, c'est une façon de dire qu'en fait, on sort de nos a priori, quoi.
du fait qu'on est capable d'apprendre soi-même sans avoir quelqu'un qui vient nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire.
C'est ça. Et c'est montré aussi, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une précédente émission, mais en fait, l'instruction en famille n'est pas dépendante. Enfin, le niveau d'instruction de l'enfant ne dépend pas du niveau d'instruction des parents. Parce que voilà, effectivement, là, les inspecteurs qui nous contrôlent, ils sont très, très rassurés si on a des études secondaires, si on a fait des études secondaires. Mais en fait, en réalité, là où l'école se vante, soi-disant, d'être une école pour tous, facteur d'élévation sociale, en réalité, l'instruction en famille réussit bien mieux que l'école parce que, en tout cas, ça a été montré, des études ont montré que ce n'était pas les enfants des parents qui étaient moins instruits n'apprenaient pas moins que les enfants des parents qui avaient eu, par exemple, qui avaient fait des études supérieures. Parce qu'en fait, il y a cette histoire de confiance, en fait. Et si les enfants apprennent avec enthousiasme, et comme Anne-Laure venait de témoigner en demi-démission, que les enfants, ils apprennent là où ils vont être intéressés, et que ce n'est pas une transmission familiale. Voilà. Ça va être là où il y a de l'intérêt pour l'enfant. L'enfant, il va aller chercher et parce que oui, enfin parce que ça parle aussi. Il y a tout de suite une question, par exemple, de l'argent, etc. On imagine, par exemple, on parle des voyages ou quoi. On va imaginer que c'est des choses qui vont coûter de l'argent. Mais en fait, de toute façon, beaucoup de familles non scolarisantes, quand même, c'est un choix aussi financier parce qu'il y a quand même un partage, du temps de présence auprès des enfants. Ce qui fait que, généralement, il y a quand même un peu moins d'argent qui rentre. Les deux parents ne travaillent pas à temps plein, en général. Et du coup, on fait un peu avec des moyens assez faibles. Enfin, la plupart des familles non scolarisantes. Mais par exemple, aller à la bibliothèque, aller au musée,
c'est des choses...
Et même quand on est confiné, on peut sortir dans la nature, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, on apprend de plein de choses. On apprend en permanence, Et ça ne coûte pas forcément de l'argent.
Et puis, on va souvent pointer du doigt ça chez les familles non-sco. Alors qu'en fait, tous les rapports de l'OCDE, de la Cour des comptes, du Conseil de l'éducation ont prouvé depuis des années, et prouvent chaque année, qu'il n'y a aucune égalité des chances dans le système d'éducation nationale. Les résultats sont mauvais, c'est pas une nouvelle, c'est un fait, en fait. Et ça concerne 12,5 millions d'enfants. Du coup, parler, est-ce qu'il y a l'égalité des chances pour les familles non-sco, alors qu'on est extrêmement minoritaire, je trouve que c'est un peu abusé, en fait. Et d'autant plus que là où il y a énormément de familles non scolarisantes, comme aux États-Unis, et où du coup il y a eu des études qui ont été faites, ça a vraiment révélé l'inverse. Et en ce moment, les plus grandes écoles américaines font des bourses d'entrée pour les enfants qui n'ont jamais été à l'école, parce que justement ils sont plus créatifs, plus ingénieux, beaucoup plus motivés. Et du coup, c'est des enfants qui sont demandés par les plus grandes écoles, au contraire. Enfin voilà. Arrêtons de parler d'égalité des chances en instruction en famille. L'égalité des chances, en plus, elle est doublement dans le sens que autant avant, il y avait des précepteurs, du coup, c'était les familles bourgeoises qui pouvaient faire l'éducation à la maison. Autant aujourd'hui, justement, encore en France actuellement, c'est extrêmement démocratique parce qu'on peut tous faire ce choix-là. Quel que soit notre niveau d'études, notre niveau de revenus, on peut tous faire ce choix-là. Du coup, en tant que parent, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir toute cette liberté-là, de créer soi-même sa vie et de créer soi-même l'environnement pour faire cette proposition aux enfants. Évidemment, ça va coûter de l'énergie, de la créativité, ça va faire que souvent on rediscute fonctionnement familial, on discute boulot, on met en chasse des places. Évidemment, en général, du coup, on a un plus faible niveau de revenu à la fin. Enfin, il y a plein de concessions pour obtenir et aller jusqu'à ce choix-là. Mais c'est possible malgré tout pour toutes les familles. Moi, je connais aussi plein de familles avec un parent solo qui font quand même aussi ce choix-là. Enfin, c'est pas seulement pour les classes aisées.
Et quand on fait ce choix de pédagogie alternative, notamment les apprentissages autonomes, comment ça se passe, les contrôles avec l'inspecteur académique ?
c'est inscrit dans la loi que les parents ont la liberté de choix pédagogique voilà, pour les apprentissages de leurs enfants. Après, eh ben, c'est évidemment que l'inspecteur et la conseillère pédagogique qui viennent une fois par an vérifier, vérifier les apprentissages, eux, ils sont formatés, entre guillemets, éducation nationale. Donc, eux, ils pensent qu'on apprend que comme ci, comme ça, etc. Donc, bah, c'est deux mondes qui se rencontrent. Deux mondes, voilà. Donc, et voilà, avec quand même, on va dire malheureusement, une sorte de hiérarchie qui ne devrait pas, qu'on ne souhaite pas. C'est-à-dire que nous, on aimerait que ça soit un partenariat entre les inspecteurs et nous. Parce que de toute façon, on a normalement l'objectif le même, c'est-à-dire le bien-être de nos enfants et que nos enfants deviennent des adultes épanouis. Voilà, je me souviens, j'ai écouté là, un copain qui témoignait à Radio Saint-Féréol, effectivement, dans le socle commun de connaissances de l'éducation nationale où c'est décrit tout ce que doit, enfin tout ce que les enfants apprennent, enfin doivent apprendre, etc. C'est hyper beau à lire ce document parce que voilà, effectivement, l'enfant doit être créatif. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, voilà, épanoui, etc. J'espère qu'on tend vers un objectif commun qui est le bien-être de nos enfants. Mais sauf que voilà, on n'a pas les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes idées de
le
comment y parvenir.
Y aller,
ouais. Voilà. Bah du coup après, ça veut dire que c'est de l'échange, voilà, et que des fois ça se passe pas très très bien, d'autant que effectivement, ben eux, ils ont entre guillemets ce pouvoir quand même de ne pas valider un contrôle, de demander un deuxième contrôle, ensuite de demander de faire une injonction de scolarisation. Donc, c'est sûr que c'est un endroit qui peut être parfois tendu. Voilà. Moi, personnellement, comme mes enfants sont encore petits, je pense que pendant la primaire, là, dans la Drôme, l'inspecteur en charge de la primaire dans la Drôme, avec une maman médecin, un enfant qui est lecteur, parce que ça, effectivement, eux, ils sont très à cheval sur... Enfin, ils sont très rassurés sur la lecture, l'écriture, les maths. On va dire que c'est ça qui est important pour eux. Voilà, donc moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Mais effectivement, plein d'autres familles qui font exactement pareil que moi, voilà, mais qui ont une histoire différente. L'inspecteur, ça peut déjà être conflictuel.
Après, dans la réalité des chiffres, il me semble que bien plus de 90% des familles, les contrôles sont satisfaisants d'un point de vue de l'académie. Du coup, dans la réalité, les contrôles sont validés. C'est même plus de 90%, je ne me rappelle
plus.
Oui,
c'est plus
de
95%.
95% des contrôles faits par les inspecteurs académiques sont validés. Du coup, dans la réalité, en fait, les contrôles sont positifs. C'est dans le vécu des familles, du coup, dans les enquêtes auprès des associations, il y a 90% des familles qui jugent les contrôles insatisfaisants. Mais du coup, dans la forme, du coup, et dans les échanges qu'il peut y avoir, où les familles, du coup, peuvent se sentir jugées, méprisées, pas du tout soutenues, pas du tout accompagnées, d'être dans un rapport complètement vertical et hiérarchique et pas du tout horizontal, de pas être dans un processus de collaboration. Voilà. Du coup, il y a quand même, dans la réalité des chiffres, en vrai, la plupart des familles, du coup, les contrôles sont validés à la fin. C'est juste que ça crée vraiment un endroit de tension et ça crée aussi un endroit de tension de manière très, très intime pour les parents où déjà, on est dans un processus de travail, de transformation personnelle pour retrouver confiance et faire confiance à son enfant. Et on a, du coup, ce poids et cette pression très, très forte avec des conséquences lourdes sur nos épaules, alors que déjà, c'est pas un choix anodin de faire l'instruction en famille, c'est pas un choix anodin de reprendre cette autonomie-là, alors que c'est extrêmement marginal et minoritaire dans notre pays, que même si c'est un droit encore aujourd'hui, c'est un droit où on marche sur des œufs. C'est un droit où c'est compliqué d'en parler à nos familles, à nos amis, à notre entourage, parce que c'est pas quelque chose de valider réellement par la société, parce que c'est pas quelque chose de valorisé. C'est pas quelque chose de positif pour la dans notre culture française. Du coup, quand on fait ce choix-là, il faut déjà avoir un sacré courage, en fait. Et du coup, on va pas faire ce choix-là à la légère. On est toujours plein de doutes dans notre chemin et dans notre parcours auprès de nos enfants, en fait. Et on a une telle envie... qu'ils grandissent en étant heureux, qu'ils grandissent en devenant des humains libres, éveillés, cultivés, curieux. C'est vraiment un objectif profond quand on fait ce choix-là, que du coup, en vrai, dans la réalité, on pourrait nous-mêmes être notre propre contrôle, tellement c'est fort. Et les sanctions sont déjà suffisamment lourdes, je pense, sur nos épaules, juste d'observer nos enfants et d'être sûr que ça va pour lui, en fait, et que ça va pour nous.
Vous êtes déjà très dur avec vous-même en tant que parent.
En fait, on a un niveau d'exigence, mais extrêmement élevé. En vrai, ça pourrait vraiment suffire comme contrôle et que c'est pas la peine de nous en rajouter une couche. Et que souvent, du coup, ça vient abîmer ça. Ça vient abîmer notre déconstruction. Ça vient abîmer la façon dont on regarde notre enfant en disant « Ah ouais, mais zut, en fait, t'as cet âge-là, normalement, t'as la grammaire, ah ouais, oh, putain, il est vraiment en retard. » Et ça vient, en fait, des fois vraiment abîmer tout ce qu'on a construit. Ça vient abîmer le regard qu'on peut porter sur notre enfant en mettant en lumière, au lieu de mettre en lumière, du coup... tout ce qu'il sait, en fait, tout ce qu'il apprend, tout son chemin, vient mettre en lumière un point noir ou un point de difficulté parce que dans le cadre classique, c'est à tel âge qu'on apprend ça et c'est pas à tel âge. Et du coup, je trouve que ça demande encore beaucoup plus de travail pour nous de cultiver cette confiance-là, d'autant plus qu'il y a cette pression sociale et académique de l'État très très forte à notre égard.
Et comment ça se passe avec la famille, les amis, ça peut être compliqué aussi ?
Oui, moi personnellement, ça, j'ai pas eu forcément de difficultés. Après, c'est sûr que je vois que en fait, l'école, c'est quelque chose de très... je ne sais pas comment dire, c'est très ancré en fait dans la norme sociale en fait. Et qu'en fait, quand tu décides de ne pas mettre ton enfant à l'école, c'est un peu comme si, comme si tu remettais en cause la société en fait, notre société. Et du coup, ça fragilise, ça veut dire « Ah, mais du coup, t'es contre la société ». Du coup, donc t'es contre, et moi j'ai mis mon enfant à l'école, du coup t'es contre mes choix à moi. Enfin, donc je pense que c'est quelque chose d'assez fort en fait pour les personnes... quand on leur dit que voilà, nous on fait un choix différent, et en plus des gens que j'ai rencontrés qui font l'instruction famille, on est tous très conscients que en fait chacun fait ses choix comme il est, avec ce qu'il est au jour de à ce moment-là, et que moi je sais pas, ça se trouve voilà, moi ça se trouve dans quelques années mes enfants retourneront à l'école parce qu'ils l'ont demandé, ou parce que moi je n'ai plus envie de consacrer autant de temps à être disponible avec eux, voilà, enfin chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est au moment T, quoi. Et du coup en tout cas moi personnellement je n'ai pas de jugement sur les gens qui mettent leurs enfants à l'école, mais je sens quand même que ce choix-là, effectivement, va parfois être vécu de manière violente pour les gens autour, qui vont se sentir attaqués dans des fondamentaux de la société, dans ce par quoi ils sont aussi passés. Enfin, du coup, moi, je peux aussi dire que pendant longtemps, moi, je me suis dit, en fait, non, moi, l'école... ça s'est bien passé pour moi, j'ai réussi scolairement, et j'ai mis longtemps à vraiment réinterroger qu'est-ce qui s'était passé pour moi aussi de violent quand j'étais à l'école. Voilà, mais parce que on protège ce par quoi on est passé aussi, quoi. Parce que ça peut être douloureux de déconstruire notre propre parcours à cet endroit-là. Et moi, je voulais quand même juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Anne-Laure, par rapport au contrôle. C'est-à-dire que, en fait, un enfant qui va être dans les apprentissages autonomes, c'est sûr, enfin, c'est pas sûr, mais c'est quand même assez probable qu'ils n'apprennent pas qu'ils n'apprennent pas les mêmes choses qu'un enfant qui va à l'école. Donc il ne va pas apprendre exactement les mêmes choses. Il va pas apprendre ce qui est demandé dans le cadre scolaire. Mais par contre, il apprend mais tellement, tellement plus autour, quoi. Enfin, moi, je suis impressionnée de voir mon fils Maël, tout ce qu'il apprend, parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est en lien avec la nature. Je suis impressionnée de voir tout ce qu'il apprend, parce que ça le passionne et que moi, je ne sais pas. Il connaît beaucoup plus de choses que moi dans ce domaine, dans plein de domaines. Mais effectivement, ce ne sont pas des domaines forcément scolaires.
On arrive sur la fin de l'interview. Vous voulez rajouter un petit mot pour conclure ?
Je veux bien lire un passage de Ramin Farenghi. Je ne sais pas comment ça se prononce.
Si, je pense que c'est ça.
De Ramin.
C'est quoi le titre du livre ?
C'est Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Du coup, cet auteur est passé, lui, dans son processus, dans son processus individuel, il est passé du coup par pareil des très très grandes écoles. Par la création d'écoles où les enfants font ce qu'ils veulent. Et maintenant, il est en instruction en famille avec son enfant. Plutôt que de fonder toute l'instruction de l'enfant sur la peur qu'il en manque, je préfère me baser sur la confiance qu'on nage déjà dans l'abondance. Pour qu'il acquiert une culture générale, l'enfant a simplement besoin de baigner dans sa propre culture. Tous les ingrédients sont déjà là. En temps voulu, la mayonnaise prend et la culture s'infuse, peu importe à quel âge. Il n'y a pas besoin d'intervenir.
La question qui nous reste, c'est de choisir dans quel monde on veut faire grandir notre enfant, alors. Un monde connecté à la nature, un monde urbain.
Et d'être attentif à ce qui l'intéresse, et aussi soi-même être attentif à ce qui nous intéresse, parce qu'effectivement, c'est un choix. Pour toutes ces familles-là qui se mobilisent actuellement par rapport au projet de loi, en fait, c'est un choix de vie, mais qui engage effectivement notre vie. Moi-même, je me dis, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir ? Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et j'avais juste envie aussi, avant que ça soit fini, de vous encourager, les auditeurs, à aller voir d'autres liens, parce qu'on n'a pas pu parler de ces choses, mais je trouve que c'est très intéressant, les liens qu'on va mettre en bibliographie sur l'expérience d'apprentissage d'enfants indiens dans des milieux ruraux où il y a absolument très peu d'apprentissage et où Sugata Mitra va installer des ordinateurs dans les murs et les enfants vont apprendre à utiliser un ordinateur, à parler anglais, etc. Je vous invite vraiment à aller voir dans la bibliographie qu'on va mettre parce qu'il y aura d'autres choses très intéressantes pour poursuivre. Et sinon, je souhaite aussi reparler de ce projet de loi qui va être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre et ensuite discuté à l'Assemblée à partir du mois de janvier. Vous encourager si vous avez vraiment envie de nous soutenir, donc d'écrire à vos députés, à vos sénateurs, pour dire ce que vous en pensez, que vous avez envie que l'instruction famille soit encore possible. Voilà, donc écrire à vos députés, à vos sénateurs, et c'est pareil sur la bibliographie, sur la page de l'émission sur rdiwa.fr, ce sera inscrit aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez nous contacter,
Merci à vous.
Merci, Eric.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais ce sera pour les prochaines émissions. Merci à vous. Bonne fin de journée.
Merci.
À bientôt.
Merci.
J'ai le ventre qui m'appelle. Il est midi, j'ai fait chauffer les...